Et il est 18h17, allons-y.
Radio Star Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Merci,
Tinsan Peterhausen.
Hallo,
ich bin
Radio Rosalie Paris.
Borussia
Gentlemen,
Radio.
Borussia
Gentlemen,
France Inter. Le 18-20.
Comment voit-on ce démarrage de campagne électorale, le nôtre, depuis l'étranger, que nous disent les Italiens, qui eux aussi ont eu leur période populiste et en sont revenus d'ailleurs, que nous disent les Américains, est-ce qu'ils regardent Éric Zemmour comme ils ont vu monter Trump? Comparaison n'est pas raison, mais nos poussées respectives nous parlent de nous tous et de l'état du monde, et on y vient dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est à Kaboul, et nous sommes ravis de repartir à la recherche de Raha, c'est une jeune Afghane que nous avions rencontrée, parce que ces notes vocales qu'elle envoie à Caroline Gilles raconte sa vie au jour le jour depuis le retour des talibans. Elle en est où, Raha, aujourd'hui? Eh bien, elle vous le racontera. Le bruit du monde de la suite. Sous les radars, Sébastien Legénie a trouvé une autoroute bloquée à Belgrade pour une histoire de lithium, des pilotes de Cathay Pacific en quarantaine perpétuelle. Et Banksy, au Royaume-Uni, qui veut racheter la prison d'Oscar Wilde. À 18h50, passons genre dans le monde. Et Julia Foyes qui nous expliquera notamment pourquoi West Side Story est interdit en Arabie Saoudite. Et puis 18h50, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four. Est-ce que c'est productif ce boycott diplomatique des JO de Pékin par les États-Unis? Jean-Marc pense que non, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Roger Cohen.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. Vous dirigez le bureau de Paris du New York Times. Alberto Toscano est là avec nous. Bonsoir aussi Alberto.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant italien de la radio radicale et je ne vais pas y aller plus loin dans l'accent italien. Je le disais tout à l'heure, Roger Cohen, comparaison n'est jamais raison et on a bien raison de s'en garder précisément. Mais néanmoins, et vous avez d'ailleurs écrit à ce sujet, la comparaison avec Trump et Zemmour, elle est tellement simple et elle va tellement de soi. On a même l'impression qu'elle avait commencé sur la couverture même du livre d'Éric Zemmour, souvenez-vous, qui était un peu une copie conforme de celui de Donald Trump. On va parler du fond tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression de retrouver même des ficelles sur la forme, en fait?
Ben oui, d'ailleurs, Éric Zemmour dit explicitement qu'il admire Donald Trump et il suit un peu son chemin. Ces deux hommes qui émergent de la télévision, qui font chaque semaine des provocations, disent des choses scandaleuses, qui assurent qu'ils soient à la une deux ou trois fois par semaine. Leur discours est plein d'insinuations racistes. Ils disent tous les deux que c'est la catastrophe, que c'est l'apocalypse, que la France, si la France ne choisit pas Éric Zemmour comme le prochain président, ça sera la fin. Donald Trump a dit la même chose. Et je dirais qu'à travers toutes ces provocations, on voit une espèce d'obsession qui se développe. On l'a vu aux États-Unis, où au début on a dit que Donald Trump ne serait jamais le président. Je suis loin d'être convaincu que Éric Zemmour sera élu. Je ne le crois pas. Mais il suit un peu le même chemin, et la France devrait prêter très attention.
Vous avez l'impression qu'on n'y prête pas assez d'attention, justement, que comme vous l'avez fait, vous, les Américains, qui êtes un peu tombés de votre chaise à un moment et qui avez dû tous revenir en arrière, les journaux en particulier.
On prête attention dans le sens qu'il est tout le temps dans les journaux, mais est-ce qu'on prête attention dans le sens que Donald Trump, ça a fini avec le 6 janvier, avec le Congrès américain qui a été envahi, avec une menace très directe à notre démocratie? Et est-ce qu'il y a raison de croire qu'en France, ce serait pas plus ou moins la même chose?
Vous pensez que c'est possiblement que c'est la même chose est
bon.
éventuelle, le mot est trop fort, mais en tout cas possible.
Donc non, je le prévois pas, je répète, je ne le prévois pas, mais je pense que c'est un homme qui a vu que beaucoup de Français, quand je regarde les visages des gens au meeting qui regardent Éric Zemmour, ça me fait beaucoup penser à la foule qui regarde Donald Trump un peu bouche bée, comme ça, plein d'admiration, persuadé que, en quelque sorte, ce personnage peut sauver le pays. Sauver le pays exactement de quoi, ça reste très vague.
Le sens de ma question, Roger Cohen, c'est aussi, est-ce qu'au fond, ce sont les mêmes routes qui sont empruntées par nos deux pays? C'est-à-dire, on parle exactement des mêmes colères, et donc de la même solution, et j'y mets des guillemets, à cette même colère.
Ben, je crois qu'il y a il y a des mêmes colères qui existent. Il y a la même fracture entre métropole et périphérie. Il y a la même inégalité qui monte. Il y a la même frustration. Il y a la même désorientation qui est venue de Covid. Non, évidemment, c'est pas exactement la même chose, mais dire qu'on ne voit pas certains phénomènes qui sont partagés par... D'ailleurs, toutes les sociétés, les démocraties développées, je dirais qu'il y a des choses en commun.
On va y revenir à ce qu'il y a en commun et qu'il peut y avoir aussi chez vous en commun, Alberto Toscano. Vous avez eu, pardon de le dire comme ça, votre période populiste, vous l'avez eue et elle est passée d'ailleurs, on va dire pour l'instant. Moi, je suis curieux de savoir quel est le regard de l'Italie. Comment vous parlez de nous chez vous ?
On dit tout d'abord que l'Italie, c'est un laboratoire politique. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de remarquer comme deux partis populistes, la Ligue et d'un côté, mais aussi le Mouvement 5 étoiles, qui ont eu un succès remarquable lors des dernières élections, aujourd'hui font partie du même gouvernement, de la même majorité, dirigé par l'ex-président de la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire la technocratie européenne la plus classique et la plus efficace. Donc, la leçon italienne est que le populisme, un jour ou l'autre, peut remettre les pieds sur terre. Ceci dit, on regarde, et pour répondre à votre question, vers la France, en considérant que le populisme français, lui, non. Lui, il est sur une dérive un peu dangereuse, dans le cas notamment de M. Zemmour, dans le sens que son discours dimanche à Villepinte est effectivement un discours d'un populisme dont on ne peut pas prévoir toutes les conséquences, mon collègue américain vient de dire.
Vous avez l'impression que on appelle ça en France notre dérive droitière, on va le dire, est plus violente et plus à droite encore que certains discours de Salvini à l'époque, par exemple ?
La dérive droitière française n'a pas eu la possibilité d'être mise à l'épreuve de la réalité. La dérive droitière italienne, avec tous ses défauts, a été forcée, entre guillemets, forcé, a eu l'opportunité de gouverner. Donc ça, c'est un rappel à la réalité, c'est un rappel à l'ordre. La dérive droitière française étant marginalisée, n'ayant pas cette expérience du pouvoir, est beaucoup plus démagogique. En France, on peut dire n'importe quoi aujourd'hui, plus qu'en Italie, parce que c'est n'importe quoi n'est pas mis à l'épreuve des faits.
Moins qu'aux États-Unis, si je puis me permettre, Roger Cohen, en matière de dire n'importe quoi lorsqu'on est un candidat. On n'est pas quand même dans le même ordre d'idées. Je pense à la série de fake news que vous-même, dans le New York Times d'ailleurs, vous listiez très régulièrement.
Et le Washington Post aussi,
bien entendu. On n'est pas encore dans cette dérive-là, nous, en France. C'est là aussi que se font les différences entre les deux personnages, à votre avis.
On n'est peut-être pas dans ce dérive-là exactement, mais je dis à Eric Zemmour, il dit que Vichy a sauvé les Juifs, il dit que on met des enfants juifs assassinés sur le même plan que leurs assassins. Je veux dire, les dérives existent, sont assez intenses. Une différence fondamentale, évidemment, entre la France et l'Italie, c'est que l'Italie, c'est quand même un système parlementaire, tandis qu'ici, aux États-Unis, c'est un système présidentiel. Donc, celui qui arrive éventuellement comme président a énormément de pouvoir. Et ce qu'on voit en France, c'est que, enfin, si on prend Marine Le Pen, Zemmour et peut-être Ciotti, on voit que 40%, presque 40% des Français désormais pourraient être classifiés comme extrême droite. Et on voit une gauche en désarroi total qui n'a eu aucune réponse ni à l'immigration, ni à la sécurité, ni vraiment sur le plan économique. Et dire que la France a une élection où la gauche ne compte pas du tout, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Et j'allais vous poser la question à tous les deux, est-ce que vous diriez en Italie de la même manière que c'est la gauche effectivement qui laisse le champ libre au fond à ce genre de discours et à ce genre de personnes pour les erreurs qui ont été faites avant ? Est-ce que c'est aussi la droite qui, comme la droite américaine, au fond, se laisse dépasser et démonter même, et laisse aussi un champ considérable à des personnages de ce genre ?
La gauche, sans doute, est en difficulté partout en Italie, en France et dans d'autres pays. Pas en Allemagne aujourd'hui, mais c'est un cas particulier. Si la gauche italienne et française est en difficulté, c'est parce qu'elle est en difficulté à donner des réponses à des problèmes réels. Donc, où elle trouve des réponses, où elle sera toujours en difficulté. Par rapport à ce que mon collègue américain vient de dire du présidentialisme français, je remarque quand même que c'est un présidentialisme bien particulier, parce que les élections qui probablement compteront beaucoup sont les législatives. Mmh. Les présidentialistes françaises comptent tant que le président de la République et l'Assemblée nationale ont la même couleur politique. Sinon, c'est une cohabitation. Et c'est pas la même chose aux États-Unis, mais en France, c'est comme ça. Donc, le présidentialisme français est un présidentialisme tout à fait particulier.
Bah, Joe Biden sera beaucoup plus faible si, comme prévu, les Républicains reprennent le Congrès l'année prochaine. Donc, il y a des similarités.
Il ne devra pas faire une cohabitation avec une majorité parlementaire différente.
Et je voudrais rajouter sur ce que vous venez de demander. Quand même, le nouveau phénomène de l'élection cette semaine, et je dirais maintenant, tous les éléments sont un peu finalement, on les voit tous, c'est la percée extraordinaire de Valérie Pécresse.
Qui aujourd'hui est en tête même d'un sondage deuxième tour.
Oui, oui. Et on le voit entre 17 et 20%. Donc, dire qu'une droite plus modérée, désormais n'existe plus en France, c'est pas vrai. Et je pense que c'est vraiment le cauchemar du président Macron, qui a cherché à gagner des votes, surtout à droite dernièrement, de voir une femme qui a l'air d'attirer pas mal de gens, comme quelqu'un qui pourrait potentiellement se qualifier pour le deuxième tour. Il serait beaucoup plus confortable en débat avec ou Marine Le Pen ou Éric Zemmour qu'avec Valérie Pécresse.
Et c'est peut-être ça la vraie différence d'ailleurs avec vous, Roger Cohen, au fond, c'est que à un moment, tout l'appareil du parti a dû se mettre derrière un personnage comme Donald Trump, et c'est ce qui lui a permis d'arriver jusqu'au bout, contraint et forcé peut-être à certains égards, mais néanmoins, l'appareil était là. Chez nos populistes à nous, chez Éric Zemmour en particulier, il n'y a pas d'appareil de parti. Derrière Valérie Pécresse, oui, il y a un appareil de parti. Peut-être que toute la différence est là, non ?
Ben, il y a certainement une différence. Oui, reconquête, ça vient de naître. Donc...
Je voudrais très rapidement qu'on aille faire un aller-retour un tout petit peu plus loin, qu'on aille voir du côté de la Hongrie. La raison étant que l'un des premiers voyages d'Éric Zemmour, justement, ça a été pour aller voir son collègue Orban de l'autre côté en Hongrie. On est curieux de savoir comment on considère cette candidature à droite toute. Bonsoir Florence Labruyère.
Bonsoir.
Et c'est vrai qu'il est passé, Éric Zemmour. Comme ça, au moins, j'ai envie de dire, les choses sont très claires. C'était aussi ça, le message et la provocation était celle-là, qui a été reçue 100% dans un pays comme la Hongrie.
Oui, tout à fait. Il est venu en septembre pour une conférence internationale sur la démographie. En fait, de démographie, on a surtout parlé de la théorie du grand remplacement. Parce qu'il faut dire que Viktor Orban est quand même une personnalité unique. En Europe, hein, c'est le seul Premier ministre qui a repris à son compte cette théorie du grand remplacement. Enfin, il répète que l'Europe est menacée par une élite libérale qui cherche à diluer les nations européennes en faisant venir des immigrants sur leur sol. Et donc, en toute logique, Viktor Orban avait invité des personnalités étrangères qui partagent ses idées, comme Éric Zemmour. Et puis ensuite, on a un petit peu moins parlé d'Éric Zemmour parce qu'il n'était pas encore candidat. On a beaucoup plus parlé de Marine Le Pen, qui est venue à son tour à Budapest il y a un mois, et qui a été reçue vraiment en grande pompe. D'ailleurs, elle l'a dit elle-même, elle était très étonnée. Même elle a dit « j'ai été reçue comme un chef d'État ». Alors là, c'est un petit peu différent. En fait, Viktor Orban, maintenant, a besoin de Marine Le Pen, puisqu'il se pose vraiment sur l'échiquier européen à l'extrême droite. Il a quitté la famille politique européenne des conservateurs. Il cherche à bâtir une nouvelle alliance au sein du Parlement européen, une alliance des droites radicales pour réformer l'Europe. Et donc, il a besoin de Marine Le Pen. Et là, maintenant, on commence à reparler d'Éric Zemmour, puisqu'il est candidat. Mais il faut dire aussi, il y a une spécificité de la Hongrie, c'est que 80% des médias appartiennent à un empire médiatique bâti par Viktor Orban.
Et
ces médias sont un peu à l'image de du Premier ministre, qui est vraiment un homme d'extrême droite. La plupart de ces médias sont des médias d'extrême droite. Ils fabriquent des fake news, ils diffusent des fake news, et ils reprennent des commentaires ou des articles de Russia Today, du site américain Breitbart. Et donc, je vous cite un exemple qui est quand même hallucinant. En parlant du meeting de dimanche d'Éric Zemmour, l'un de ses médias titre « Zemmour a été attaqué par des extrémistes de gauche et le média passe sous silence les attaques contre les militants de SOS Racisme ». Il écrit même « La presse française a présenté l'événement comme si les participants avaient été violents et elle a parlé des provocateurs comme si c'était des pacifistes ». Voilà un bel exemple de fake news.
Voilà, une bonne manière aussi d'appuyer sur cette inimitié entre le certain nombre de pays de l'Union, le pays de Visegrad en gros, et la France. On perd pas de vue qu'on est à quelques jours seulement d'une présidence française, donc il y a des choses sur lesquelles on est en train d'appuyer, on est évidemment pas dupe de ça. Qu'est-ce qu'il en reste en Italie chez vous de cette période que vous avez traversée, de la période Salvini? Est-ce qu'on se dit que c'est derrière vous, que c'était un épisode en effet, que vous avez mis la main, vous avez vu que c'était chaud?
Non, c'est pas un épisode dans le sens que à toute autre élection législative, les populistes peuvent encore gagner. Ceci dit, le pays et ce même parti ont fait quand même des expériences entre-temps. On vit en Italie une législature qui a commencé il y a presque plus que 4 ans, hein, et on a vu 3 gouvernements totalement différents entre eux. Le premier entre 2 forces populistes ensemble, Ligue et 5 étoiles. Le deuxième, un gouvernement d'une majorité un peu plus large, l'actuel d'une large coalition où pratiquement tous les parlements, sauf un parti d'extrême droite, mais pratiquement tous les parlements est rassemblé derrière Mario Draghi. Au nom, évidemment, du besoin de reprendre le rênes de l'économie et relancer le pays. Donc, il y a eu des expériences qui laisseront des traces, mais les partis populistes peuvent parfaitement reprendre le contrôle, sinon du Parlement, quand même d'une bonne partie du Parlement, lors des prochaines élections. Mais d'ailleurs, c'est les lois de la démocratie. L'important de la démocratie est que certaines règles soient respectées et qu'à l'intérieur de ces règles, qui gagne. On peut dire malheureusement, mais ça arrive.
Chez vous, on peut dire... Est-ce que l'Hongrie, maintenant, est plus proche que de nos démocraties, les démocraties en Europe, ou plus proche d'un système Poutine où, où il y a un peu l'air d'une démocratie, mais où Viktor Orban a construit désormais une société illibérale en Hongrie sans que l'Union européenne dise grand-chose. Et à mon avis, c'est assez dangereux. Et on voit aux États-Unis, bon, Donald Trump n'est plus le président des États-Unis, mais le phénomène Trump.
Exactement, il plane toujours.
La fracture culturelle, la fracture sociale, économique demeure. Et on ne peut pas exclure d'ici 3 ans que... Je ne crois pas que Donald Trump va revenir, mais c'est pas impossible non plus.
Et l'empreinte, en tout cas, elle va rester. Pour le coup. Même si lui ne revient pas, l'empreinte,
oui, l'empreinte
de Trump,
et,
quoi qu'il arrive,
et le phénomène.
Désormais,
les colères qui existent dans nos sociétés peuvent porter des fruits très très malheureux.
Ça, les colères, c'est peut-être quelque chose que nous partageons tous à égalité. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Je vous remercie vraiment Roger Cohen et Alberto Toscano d'avoir fait ce petit tour avec nous dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
La suite ce soir, justement, tiens, c'est un droit de suite. On est heureux de prendre des nouvelles de Rara, une jeune Afghane de 21 ans. On avait fait sa connaissance au moment de l'arrivée des talibans. Où en est-elle aujourd'hui? On va le découvrir ensemble grâce à Caroline Gillet qui est en contact avec elle régulièrement et qui viendra nous en parler. Et puis la troupe du mardi, c'est le bruit du monde. La suite sous les radars, Sébastien Logénie.
Nous irons en Serbie où un projet minier très controversé fait descendre les habitants dans la rue par milliers.
Passons genre dans le monde et Julia Foyce. Bonsoir Julia.
Bonsoir et West Side Story, le blockbuster de l'année interdit en Arabie Saoudite.
Et il nous expliquerait pourquoi le monde d'après. Bonsoir Jean-Marc Four.
Coucou. Washington annonce un boycott diplomatique des JO d'hiver en Chine. Et si c'était contre-productif?
Allez, merci tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il se poursuit en musique. Joy Crooks, When You Were Mine. C'est dans la playlist de France Inter.
Summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor line, never take it easy on the PDA.
Un droit de suite ce soir auquel nous tenons particulièrement dans Un jour dans le monde. Le bruit du monde ce soir nous vient de Kaboul où nous prenons des nouvelles de Raha. Peut-être que vous vous en souvenez, c'est une jeune afghane de 21 ans que vous avez entendue ici même et qui régulièrement envoie, depuis la prise de pouvoir des talibans, envoie à Caroline Gillet des notes vocales avec son téléphone et je vous salue. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
Vous la suivez, Raha, dans sa nouvelle vie aujourd'hui, sa vie contrainte. La première fois qu'on l'a entendue grâce à vous, elle était un mariage. La musique avait été coupée brutalement par les talibans. Aujourd'hui, Caroline, comment va-t-elle, Raha ?
Alors, c'est pas facile, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, quand les talibans ont pris le contrôle de la capitale, c'était le 15 août dernier, ils sont venus armés, frappés à sa porte, ils ont fouillé l'appartement et ils ont prévenu qu'ils reviendraient. Alors Raha, elle vit avec ses parents, son petit frère et ses 6 petites sœurs. Tous ont pris la fuite le soir même pour emménager dans un tout petit appartement à l'autre bout de la ville.
Donc on dit qu'elle se cache là ou pas ?
Alors pas vraiment, mais on peut dire que comme une majorité de femmes, elle sort très peu. Les notes vocales qu'elle envoie plusieurs fois par semaine sont le plus souvent enregistrées depuis cet appartement où les jours forcément se ressemblent beaucoup.
Eh bien voici un extrait par exemple. Justement, elle est chez elle et elle regarde par la fenêtre.
Je me suis réveillée avec ce son dans ma chambre. Ça vient du checkpoint des talibans juste devant la maison. Je dormais si bien, là je ne peux pas me rendormir avec ce bruit. Ils chantent en pashtoun, une de nos langues nationales, et ils parlent de la réalité du pouvoir et de qui est le vrai leader.
The reality of power, and I don't know who's the real leader. They're talking about these things. I don't know pashtun that much.
Je comprends pas tout, je parle pas si bien pashtoun, mais ce genre de musique, c'est pas trop mon genre.
I can't stand in front of the window because.
Aussi, je me mets pas trop près de la fenêtre parce que le checkpoint est juste là, devant la fenêtre de ma chambre. Et s'ils me voient avec un téléphone, comme ces gens sont imprévisibles, ils pourraient venir à notre maison. Je veux pas prendre de risques. Mais d'ici, je vois quand même les gens qui font leur balade du matin, qui vont acheter des petits déjeuners. Il y a des étudiants qui vont à l'école. J'espère qu'ils vont arrêter cette chanson affreuse, ça me donne mal à la tête.
Est-ce qu'elle travaille, Raha, Caroline ?
Alors, avant les talibans, oui, elle étudiait et elle travaillait dans une start-up. Et puis, du jour au lendemain, forcément, tout s'est arrêté. Sa mère, elle, a continué d'enseigner dans une école primaire. Mais comme c'est le cas pour de nombreux fonctionnaires, elle n'est plus payée depuis août, idem pour son père. Et donc, Raha a fini par trouver des petits jobs en ligne. Mais elle est aujourd'hui la seule à soutenir financièrement toute sa famille.
Allez, suivons-la. Il faut bien aller à la banque chercher son salaire, tout simplement.
Je suis venue à la banque pour retirer mon salaire. Les gens sont en train de se disputer, de crier sur les employés, qui eux leur demandent d'attendre leur tour. C'est très énervant et bruyant. Ça fait déjà une heure que j'attends, mais il y a encore 50 ou 60 personnes devant moi.
50 or 60 people waiting for their turn. I'm sure everybody know about.
Ah, je suis sûre que vous êtes au courant de l'énorme crise financière ici. Bien sûr, le nouveau gouvernement est responsable. Et il doit régler ça parce que sinon, tout le monde va tomber sous le seuil de pauvreté. Et alors, ce pays va changer et devenir une terre de zombies.
C'est important, elle parle de zombies, Caroline, c'est important de rappeler, il y a un rapport des Nations Unies qui est très récent, qui dit que 97% des Afghans pourraient tomber sous le seuil de pauvreté l'année prochaine. 97.
Oui, c'est dingue. Et pour vous donner une idée de la brutalité de cette crise et de la rapidité avec laquelle elle est arrivée, le PIB afghan a chuté de 20% en seulement quelques semaines. En Syrie, ce même résultat était arrivé après 5 ans de guerre civile. Alors, les États-Unis et l'Union Européenne ont promis plus d'1 milliard de dollars, mais la communauté internationale continue à se demander comment verser cette aide sans qu'elle ne tombe entre les mains des talibans.
Et en attendant, donc, Ra descend quand même marcher dans son quartier.
Je suis sortie pour me promener près de l'appartement où je vis. Les enfants jouent au cricket, au football. Aujourd'hui, je ressens vraiment le manque de mes amis, collègues. On passait beaucoup de temps à marcher, à parler ensemble. Et aujourd'hui, je sens vraiment ce que ce manque représente pour moi. Là, vous entendez le son d'une moto. Un homme vend des oignons. J'ai acheté du maïs grillé, des biscuits pour moi et mes petites sœurs qui sont avec moi. Là, il y a des magasins et ma sœur me demande de lui racheter encore des sucreries. Je lui ai dit que je lui en achèterai une prochaine fois. Donc là, je suis là pour regarder le coucher de soleil et aujourd'hui, les choses semblent un peu différentes. Je vois plus de femmes qui se promènent dans la rue, je ressens la joie et la paix dans les yeux et les têtes des gens. Comme s'ils en avaient marre de trop s'inquiéter de cette douleur, de cette tristesse. Et même moi, je suis tellement fatiguée de penser et de m'inquiéter de la situation et de la crise. J'essaie de surmonter le stress en arrêtant de penser aux choses que je ne maîtrise pas. Voilà, c'était juste la pensée positive d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous.
On est heureux qu'elle ait voulu partager cette pensée positive avec nous, Ra. Caroline, juste en un mot, est-ce qu'elle n'est pas partie parce qu'elle ne pouvait pas ou parce qu'elle n'a pas voulu?
Elle ne pouvait pas. Alors ça, c'était en août et maintenant, elle a très envie et elle cherche des solutions. On s'envoie des liens, on essaie de trouver comment faire, mais ce n'est pas facile.
On va la retrouver. Merci vraiment beaucoup de nous remettre sur la trace de cette jeune fille. On a pris rendez-vous déjà, Caroline, vous et moi, dans Un jour dans le monde. Ce sera le 21 décembre, en longueur, pour prendre des nouvelles de ces jeunes femmes dont vous nous faites partager le quotidien et qui vous envoient ces petites notes vocales. Merci vraiment.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Allez, on change d'ambiance et c'est sous les radars et Sébastien Legenie avec une autoroute, Sébastien, bloquée autour de Belgrade, des milliers de Serbes qui protestent contre un projet minier très controversé.
Oui, c'était le week-end dernier, des milliers de manifestants paralysaient des routes un peu partout en Serbie. La semaine dernière déjà, plusieurs rassemblements avaient eu lieu notamment dans l'ouest du pays. C'est là, à l'ouest, dans la région de la vallée de Jadar, que la colère monte depuis des mois car le gouvernement serbe envisage de confier au géant minier anglo-australien Rio Tinto l'exploitation de formidables gisements de lithium. Le lithium, voilà la raison de cette flambée d'inquiétude. Un métal très recherché, essentiel dans la fabrication des voitures électriques. La Serbie en regorge, près de 10% des réserves mondiales. Et le gouvernement se verrait bien devenir le champion européen de la batterie électrique. Des dizaines de propriétaires ont donc déjà vendu leurs terres à Rio Tinto. Sauf qu'une autre partie de la population, elle, craint des dégâts environnementaux irréversibles et a donc décidé de manifester son opposition au projet du pouvoir. Ils essayent de voler les gens, explique cette manifestante. Ils ont permis aux entreprises étrangères de faire ce qu'elles veulent sur nos terres. Ils nous ont mis sur un plateau et tout le monde peut venir et se servir. C'est l'anarchie. Ce mouvement anti-lithium, pourrait-on dire, est en train de monter dans la société avec le soutien de certains grands noms comme la star du tennis Novak Djokovic qui défend sur Instagram l'air pur, l'eau et une nourriture saine. En face, le président serbe Aleksandar Vučić, lui, y voit une manipulation politique de ses opposants des élections présidentielles devrait avoir lieu dans le pays l'an prochain.
Les pilotes d'avion d'une compagnie hongkongaise bloquée en quarantaine perpétuelle.
Oui, on parle là de la compagnie Cathay Pacific, dont le siège social est basé à Hong Kong. C'est l'une des 5 meilleures compagnies au monde.
The air conditioning system in every one of our aircraft.
Extrait des clips de prévention de la Cathay Pacific qui garantit des conditions sanitaires de vol absolument parfaites, circulation de l'air comme dans un hôpital, lavage systématique des fauteuils et personnel navigant extrêmement contrôlé. Hong Kong a en effet calqué son modèle sanitaire sur celui de la Chine continentale. Stratégie zéro Covid, et pour les pilotes d'avion des compagnies locales, ça se transforme en véritable enfer. Comme ils voyagent dans le monde entier, ils sont soumis à un régime drastique. Certains pilotes ont passé jusqu'à 150 jours à l'isolement cette année. Ils passent des semaines dans une bulle qui se limite à l'avion et à une chambre d'hôtel. S'ils sont testés positifs, direction le centre d'isolement de Penny's Bay à Hong Kong, à la limite de la prison, pièce exiguë, pas de soleil. C'est ce qui est arrivé le mois dernier à 270 personnes, 120 membres d'équipage et leurs familles, envoyés dans ce camp de quarantaine gouvernementale après que 3 pilotes ont été testés positifs à leur retour d'Allemagne. Bref, les pilotes craignent pour leur santé mentale et des dizaines d'entre eux envisagent désormais de démissionner dans les prochains mois.
Allez, on termine, c'est moins tragique, avec le dernier projet de Banksy.
Le street artiste anglais le plus célèbre des graffeurs du monde s'est mis en tête de sauver la prison de Reading des mains des promoteurs immobiliers. Ce bâtiment de briques du 19e siècle, à 1h30 de Londres, a notamment abrité dans ses geôles l'écrivain Oscar Wilde, condamné aux travaux forcés pour sa liaison homosexuelle avec Lord Alfred Douglas, incarcéré à Reading pendant 2 ans. Un monument historique fermé depuis 2013 et que le ministère de la Justice anglais entend revendre. Voilà donc Banksy qui entre en scène.
Ça t'a eu.
Voilà, c'est l'une de ses dernières vidéos. En mars dernier, le mystérieux street artiste part à l'assaut des murs de la prison pour y dessiner un Oscar Wilde s'échappant grâce à sa machine à écrire. Banksy se dit prêt à vendre l'un des pochoirs qui a servi à cette œuvre pour 11 millions d'euros. 11 millions pour racheter la prison et en faire un centre culturel. Le graffeur a reçu l'appui des artistes les plus célèbres, Kenneth Branagh, Kate Winslet. Le ministère de la Justice, lui, n'a pas encore répondu à son offre.
Allez, merci beaucoup Sébastien Legénie. Je peux vous faire un petit dessin si vous voulez. Je vous remercie beaucoup.
Je suis pas sûr qu'il vaille aussi cher, mais tentez toujours.
Allez, pour voir, on sait jamais. Je vous laisse partir avec Jack White. En attendant, Wayfaring Stranger, c'est sur France Inter.
I am a poor wayfaring stranger, traveling through this world. Sickness, toil, nor danger in that fair land to which I go. I'm going home to see my mother. I'm going home no more to roam. I am just going over Jordan. I am just going over and steep, but golden fields lie out before me, where weary eyes no more will wait.
Pas l'air en forme, Jack White, hein? Wayfaring Stranger sur France Inter. Tiens, voilà une autre qui voyage jusqu'à nous le mardi. Et c'est Julia Foyce.
France Inter. Un toujours dans le monde.
Julia qui ne connaît pas le bluegrass, mais qui chaque semaine nous donne des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence en musique, tiens, Julia.
Oui, titre culte tiré d'un grand classique de la comédie musicale. Voici le son que l'Arabie Saoudite n'entendra pas.
Tonight, tonight, it all began tonight. I saw you on the
Vous l'aurez évidemment reconnu, hein, Tonight pour la chanson et West Side Story pour le film. C'est l'une des dernières grosses, grosses sorties cinéma de l'année. Ce remake avec, attention, Steven Spielberg évidemment à la réalisation, à la production et à la distribution, Disney et la 20th Century Fox. Autant dire deux mastodontes qui comptent bien inonder la planète de cheveux en banane et de jupons à froufrous, selon les codes d'une esthétique 50s qui, eux, n'ont pas bougé d'un poil, sauf que ça ne passe pas dans certains pays du Moyen-Orient, ni en Arabie Saoudite, donc, ni au Koweït. Pourquoi ? Eh bien parce que ce personnage transgenre, là, joué par une actrice non-binaire, comment dire ? Ben c'est pas possible. Propagande LGBT, idéologie susceptible de pervertir la jeunesse, les deux pays avaient demandé de couper toutes les scènes où cet adolescent apparaît. Hors de question, répondent les studios. Le bras de fer se solde dans ces deux pays-là par un refus pur et simple de diffusion.
Voici une première et c'est en Suède.
La Suède n'avait jamais eu de femme ministre de l'éducation. C'est désormais chose faite avec le tout nouveau gouvernement social-démocrate de Magdalena Andersson. À ce poste clé, celui qui aidera les générations futures à se construire, à apprendre, à se former, elle a choisi une ancienne directrice d'école, divorcée, mère de deux enfants adoptifs. Signal d'ouverture fort puisque Lina Axelsson Kilblom est par ailleurs transgenre. Avec la nomination l'an dernier en Belgique de Petra de Sutter comme vice-première ministre et celle en 2016 de la Taïwanaise Audrey Tang au numérique, à ce jour, sur l'ensemble de la planète, 3 personnes transgenres occupent des portefeuilles ministériels. Le monde bouge, il bouge dans ce sens-là et il faudra s'y habituer, martèle Lina Axelsson. Comme elle l'avait déjà écrit dans une tribune, les personnes trans ont toujours existé, elles existeront toujours et nous n'avons plus honte, nous sommes la nouvelle normalité.
Et sinon la Pologne, Julia, pousse un cran plus loin sa lutte contre l'IVG.
Il y est déjà en pratique interdit sauf en cas de viol, d'inceste ou lorsque la vie de la mère est en danger, mais visiblement les ultra-conservateurs au pouvoir ne vont pas s'en tenir là. Un registre national des grossesses devrait être mis en place dès janvier. Les médecins auraient l'obligation d'y indiquer toutes les femmes enceintes qu'ils ont suivies. Pour le gouvernement, c'est une simple mise à jour de données médicales, mais les associations y voient surtout une façon de pister toutes celles qui auraient eu recours à des avortements clandestins. Et on est effectivement en droit de se dire que peut-être, je dis bien peut-être, ce registre pourrait servir à ça. Hein. D'autant que le corset se resserre encore autour des femmes et de leur corps en ce moment même en Pologne, car ça n'est pas tout. Le Parlement polonais va se pencher sur une loi d'initiative citoyenne. Ayant passé la barre des 100 000 signatures requises, elle prévoit de punir de 5 à 25 ans de prison les femmes qui avortent, comme les médecins qui les aident. Ah, elle avait dit quoi déjà de Beauvoir ? N'oubliez jamais, Fabienne, qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Et sur ce, bonne soirée à vous.
Est-ce qu'elle avait vraiment écrit « N'oubliez jamais Fabienne »
Parce que alors, si elle a mis Fabienne. Cas, en fait, elle a écrit en pensant flattée. À vous. Si, elle a écrit en pensant à elle. C'est ce qu'on dit, en tout cas.
Merci beaucoup, ça me met vraiment en joie. Julia Foyce, à mardi prochain, Julia.
Fabienne Saint-Hès, le 18-20.
Le monde d'après et Jean-Marc Four. Jean-Marc, les États-Unis ont donc annoncé la nuit dernière leur décision de boycotter les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en Chine. C'est en février prochain. Washington justifie cette décision par la défense des droits de l'homme, mais vous n'êtes pas totalement convaincu, Jean-Marc, et c'est votre monde d'après.
Alors sur le papier, c'est séduisant. C'est un acte clairement posé. Pas question de laisser la Chine utiliser les JO comme une vitrine politique sans rien dire. En plus, elle nous a déjà fait le coup lors des Jeux d'été. Hein, souvenez-vous, en 2008, une démonstration de puissance. Donc Joe Biden dit non, nous n'enverrons aucun représentant diplomatique sur place pour ne pas avaliser, je cite, les violations flagrantes des droits de l'homme et les atrocités de la Chine au Xinjiang. Ça a le mérite de la clarté, dénoncer la répression dont est victime la minorité musulmane dans cette région. Selon les associations de défense des droits de l'homme, rappelons-le, 1 million de Ouïghours, 1 million, est retenu dans de prétendus camps de rééducation. Washington préfère un autre mot, génocide. Poser un acte pour dénoncer l'inacceptable, c'est le pouvoir du symbole. Et tant mieux si cet acte remet la question ouïghour au centre de l'attention. Tant mieux si cet acte dénonce la répression chinoise, pas seulement au Xinjiang, mais aussi au Tibet, à Hong Kong et dans tout le pays. La joueuse de tennis Peng Shuai en est la dernière victime, mise à l'écart pour avoir accusé de viol un dignitaire du régime. Donc sur le papier, tant mieux.
Donc qu'est-ce qui vous dérange, Jean-Marc? C'est pas assez, c'est ça?
Ah, oui, d'abord c'est une demi-mesure. Hein. On parle bien d'un boycott diplomatique. Les diplomates n'iront pas au jeu. Bon, en même temps, ils font quand même assez peu de slalom géant ou de patinage de vitesse.
Oh, hein. Ben, ça dépend des fois. Mais
c'est ça. Les sportifs, eux, ils iront. Autant dire que cette absence des huiles passera inaperçue. De toute façon, aucun dirigeant n'avait jusqu'à présent annoncé sa venue, à la seule exception de Vladimir Poutine. Bon, donc c'est une annonce pour pas cher. C'est ce qui fait dire d'ailleurs à Mike Pompeo, l'ancien patron, vous savez, de la diplomatie américaine sous Trump, que ça ne sert à rien parce que, je cite, au bout du compte, tous les athlètes seront là, donc le pouvoir chinois se fiche complètement d'un boycott diplomatique. Soit dit en passant, même les boycotts complets, sportifs inclus, ont rarement eu la moindre efficacité politique. Ils ont été souvent utilisés, rappelez-vous, à la fin du XXe siècle, pour dénoncer l'apartheid en Afrique du Sud ou l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Ils n'ont guère eu d'impact sur ces sujets. Ça n'en aura sans doute pas davantage, cette fois-ci, sur le sort des Ouïghours. Et puis, il ne faut pas s'y tromper, hein, ce type d'annonce de la part de Washington obéit surtout à des objectifs de politique intérieure américaine. Il s'agit de montrer à l'électorat que l'on est ferme à l'endroit de Pékin, que l'on demeure le leader du monde libre à la veille d'un sommet de la démocratie organisé en fin de semaine à Washington. Bref, c'est d'abord une posture à visée domestique, comme on dit en anglais.
Mais c'est quand même mieux que rien, non, malgré tout.
Alors, ça dépend en fait comment ça tourne ensuite. Parce que ça peut aussi devenir contre-productif. D'abord, c'est quand même un peu pain béni pour le pouvoir chinois, du moins à l'intérieur du pays. Ça va lui permettre de souffler un peu plus encore sur les braises du nationalisme. L'opération a déjà commencé. Mensonges, rumeurs, s'est écrié le porte-parole de la diplomatie chinoise. Tout cela montre les intentions malveillantes des États-Unis. Au bout du compte, il n'est pas exclu que ça renforce même la répression contre les opposants. Et puis surtout, tout dépend en fait de la mobilisation en chaîne. Autrement dit, qui va s'associer à ce boycott initié par les États-Unis? Les pays du Commonwealth s'interrogent, surtout le Canada et l'Australie, qui sont en mauvais termes avec Pékin. Mais un peu à l'image de la Nouvelle-Zélande, ils semblent vouloir privilégier l'argument de la pandémie pour justifier une absence de leurs diplomates. Alors là, ça n'a plus le même sens que de dénoncer les exactions contre les Ouïghours. De ce côté-ci de l'Atlantique, Paris annonce une coordination européenne sur le sujet, mais pas certain que les 27 prennent la même décision que Washington. Plusieurs membres veulent, on le sait, ménager la Chine. Et alors si au bout du compte, le boycott restait limité à une poignée de pays, ce serait la preuve à l'inverse de l'extension de l'influence chinoise. Sans compter, bien entendu, que les grandes entreprises privées partenaires des Jeux n'ont certainement pas l'intention de lâcher l'affaire, quand bien même elles sont occidentales, Visa, Coca-Cola, Allianz, Bridgestone. Donc c'est un boycott qui peut faire cheat. La vraie question, c'est le sénateur américain Mitt Romney, qui est l'un des rares esprits libres côté Parti républicain, qui la pose. Plus jamais les JO ne devraient être attribués à un pays qui viole de manière si flagrante les droits humains de ses propres citoyens. Mais alors là, sur ce sujet de l'attribution des Jeux, on n'est pas rendu.
Allez, comme vous dites, le monde d'après de Jean-Marc Four, tous les soirs, dont un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Le 18-20 continue avec le journal d'Hélène Philly et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous, ne changez rien.